Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui à nouveau dans les studios de Radio Présence Figeac Xavier Vidal, qui revient de Cardaillac, donc pour venir nous voir. Bonjour Xavier.
Et bonjour Mathilde.
Et nous avons Armand qui revient d'ici, parce qu'il reste ici.
Je suis resté ici.
Voilà.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Armand. Nous avions déjà fait deux épisodes avec vous, Xavier. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes originaire donc de Toulouse, que vous habitez maintenant à Cardaillac, où vous avez même pris des fonctions dans la mairie. Donc il est difficile de vous attraper et que vous avez été prof de musique, collecteur, musicien, jardinier peut-être.
Ah oui, ça c'est important.
Voilà, jardinier. Vous élevez des poules aussi, ça c'est important. Voilà. Et mais j'en oublie certainement. Hein. Il y a des choses que je ne sais pas, que je ne sais pas, je ne sais pas tout.
Oui, il vaut mieux.
Multi-instrumentiste, vous avez fait aussi beaucoup de CD, beaucoup de aussi quelques livres de répertoire. Ça, je conseille, on mettra tout ça sur le site, hein, Armand.
Bien sûr.
Voilà, pour que vous puissiez les trouver, ceux qui sont encore accessibles en tout cas. Parce que c'était très, très intéressant.
Tout ça, c'est des choses qu'on a fait avec des associations. Et j'insiste sur les associations parce que maintenant, les associations, c'est difficile parce qu'il faut trouver des bénévoles et tout ça. On dit que les gens sont pas, ont du mal à s'impliquer. Mais bon, je ne trouve pas parce que je trouve qu'il y a des jeunes quand même qui
sont... Il y en a beaucoup hein, d'associations ici, je trouve. Oui.
Voilà. Et, mais bon, moi, perso, je tiens beaucoup à l'associatif, au mouvement associatif. Un peu le socioculturel, tout ça. Les institutions sont mieux considérées que l'associatif, mais la base de la démocratie, de l'échange, tout ça, c'est l'associatif.
Et bien justement, on va parler d'un travail que vous avez fait en associatif, parce que je sais que vous dites souvent « on ». Donc ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul, et je sais que vous insistez énormément là-dessus, à dire « moi, je n'étais pas tout seul pour faire ce travail ». Et j'aurais voulu, dans cette émission... On parle du collectage parce que c'est rare que je trouve des gens qui ont fait autant de collectage que vous. Vous en avez fait énormément dans la musique du Quercy et je voulais savoir comment ça se passe, comment vous avez fait ça et est-ce que vous en faites encore aujourd'hui.
Ouais, ça c'est intéressant. Souvent d'ailleurs, pour relier à ce qu'on disait avant, c'est porté par l'associatif, mais en fait c'est beaucoup d'énergie personnelle parce que il faut prendre du temps, vraiment, comme si on avait du temps à perdre pour rencontrer les gens. Donc, voilà, on dit, par exemple, on s'intéresse au conte ou à la musique, ou quelque chose comme ça, et on peut connaître des gens. Nous, par exemple, c'était facile en tant que musicien, parce que dans les soirées qu'on animait, on pouvait rencontrer des gens, et puis ces gens-là, même si eux, ils connaissaient pas des chansons, ils nous étaient, vous devriez aller voir une telle. Donc voilà, on fait des connaissances comme ça. Et comment dire, alors au début, ce qu'on veut, c'est, par exemple, quand on est musicien, on cherche du répertoire, des chansons, des musiques instrumentales, tout ça. Mais en fait, petit à petit, on rentre en amitié avec les gens, parce qu'on va les voir souvent, par exemple, plusieurs fois.
C'est humain quand même.
C'est humain. Et en fait, les gens, même, ils racontent, c'est des récits de vie. C'est très très riche parce que les anciens évidemment ils ont plus de connaissances de la vie que nous plus d'expérience et en plus ils avaient une traversée aussi des périodes difficiles, ils avaient une vie ils ont eu une vie aussi pas facile au niveau économique, du travail, des relations familiales, de je sais pas moi, enfin voilà quoi. Maintenant même si on se plaint, on a quand même, dans la société actuelle, on a évolué quand même. Il ne faudrait pas qu'on revienne en arrière, mais enfin, je pense qu'on a évolué. Quoi.
Oui, je plus sois.
Si ce n'est pas la place idéale encore pour, je sais pas, pour les minorités, pour les femmes, pour les je sais pas quoi, c'est quand même mieux qu'il y a, 50 ans.
Je plus sois, je suis d'accord.
Donc voilà, ils témoignaient de quelque chose comme ça, où ils avaient dû évoluer dans une société qui était dure, la société du travail, où vraiment les classes sociales étaient très différenciées aussi. C'est intéressant. Et la valeur du travail, parce que quand même, arriver à vivre directement par ce qu'on produit de ses mains.
Oui, parce que c'est une société majoritairement rurale.
Ouais, c'est ça. Mais même ouvrière, c'est pareil. Et les ouvriers, ils vivent vraiment de ce qu'ils produisaient avec leurs mains.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'était la majorité. La majorité des gens. C'était une minorité qui travaillait pas. Donc, c'est intéressant. Et puis, c'est des leçons de vie. Comme c'est des vies qui sont dures, ça donne une espèce de philosophie de la vie, quoi.
Donc, il y a plus que le chant ou la musique, il y a tout ce passif qui est important à collecter aussi.
Ouais.
Parce que vous disiez, c'est beaucoup d'investissement personnel. Ça veut dire qu'effectivement, des fois, peut-être vous allez voir quelqu'un et puis vous allez ressortir au bout de 2-3 heures et vous n'aurez rien... Enfin, vous serez allé chercher, par exemple, de la musique.
Ça s'est même arrivé à l'époque où on avait du matériel qui n'était pas fiable.
En plus.
On revient et puis, en fait, ça n'a pas enregistré.
Ah, il y a ça.
Non, mais après, des fois, alors, on trouve ce qu'on cherche, mais on est surpris aussi de trouver des choses qu'on ne cherchait pas.
Et vous avez une anecdote
Par exemple, les gens, ils peuvent sortir des choses, on ne leur demande pas, et puis ça leur vient comme ça, une chanson... qui est vraiment une chanson ancienne, archaïque, ou un conte, ou des choses, ou des récits, raconter des événements qui se sont passés localement, ou je sais pas quoi, c'est très enrichissant.
Est-ce que vous avez vu aussi des gens reprendre leurs instruments après vraiment beaucoup d'années? J'avais entendu parler de certains violonistes qui refaisaient du violon après 40 ans. Alors, c'est sûr, ça sonne un peu différemment. On a parlé hors antenne. C'est-à-dire que, des fois même, pour une oreille qui n'est pas entraînée, c'est difficile à écouter.
Et ouais, parce que... déjà, dans la musique populaire, il y a... Ce qui est difficile à entendre, c'est que les gammes ne sont pas standardisées comme dans la musique classique académique, quoi, on va dire. Où tous les intervalles sont égaux, il y a des demi-tons, tous les demi-tons sont égaux et tout ça. Là, non, on a des gammes particulières. Donc au début, il faut écouter ça, le son des instruments, le son qui n'est pas lisse aussi. Parce que dans la musique classique ou la musique de variété, tout ça...
De radio,
on est habitué à des sons assez lissés, de studio, de salle de concert, tout ça. Là, non, on a des sons un peu rudes, des voix particulières et tout ça. Mais bon, moi, enfin, perso, moi, c'est ce qui m'a attiré dès le début. Mais j'aime le côté roots.
Mais c'est vrai que c'est assez roots, hein, c'est un son qui vient de la terre. Et j'avoue que, une des premières fois où j'ai entendu un CD de collectage, c'est-à-dire c'était des violoneux de l'Artense, plutôt de l'Auvergne. Et qui jouaient des morceaux, ça faisait 40 ans qu'ils n'avaient pas retouché à leur violon, puis là on leur demandait de sortir des morceaux du fin fond de leur mémoire, donc déjà ça c'est incroyable. Des gens qui ont fait danser, qui avaient un passif très très musical, et j'ai pas compris, enfin j'ai trouvé ça absolument moche, j'ai trouvé ça inutilisable, et puis j'y suis revenue quelques années après, et je me suis dit, mais c'est puissant ce truc.
Voilà.
Alors, comment on fait? Parce que vous dites que vous n'étiez pas tout seul, si vous allez chez les gens.
C'est pour ça qu'il faut, à la base, il faudrait avoir une formation pour à la fois d'historien, d'ethnologue, de musicologue. On peut commencer à enregistrer, faire du collectage comme ça, mais c'est dans l'idéal. C'est ce qu'on a fait, nous, au début. On a fait des trucs, pris des cours à la fac en ethnologie et tout ça.
Donc vous aviez une formation, vous, avant de faire les collectages?
Non, au début, non. Mais après, on a senti le besoin. D'ailleurs, Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand on a rencontré les universitaires, ils nous ont dit, vous, votre boulot, c'est super intéressant au niveau de la recherche, vous devriez le valoriser au niveau universitaire. Et alors, donc, on a dit, ben ouais, pourquoi pas, et ça nous a permis de nous former. Et ce qui est intéressant, c'est que cette science-là de l'étude des musiques, ça s'appelle l'ethnomusicologie. Et là, on a pu rencontrer des gens qui faisaient des recherches sur les musiques du monde. Et à mon avis, on ne peut pas comprendre les musiques d'ici si on ne s'intéresse pas aux musiques du monde. Enfin, moi, je suis un fan des musiques du monde. Moi, si on m'amène un enregistrement d'un truc que je ne connais pas au fin fond de l'Argentine ou du Vanuatu, j'y vais de suite. Mm. Parce que, en fait, c'est toujours ce que j'ai cherché dans la musique aussi, c'est le truc particulier, le truc...
Primitif,
nouveau,
peut-être.
Nouveau.
Oui.
C'est comme... ouais.
Ah, moi, ça m'intéresse ce que vous me dites. On ne peut pas comprendre la musique d'ici si on ne comprend pas la musique du monde. Alors, est-ce que vous pouvez développer ça? Parce que ça, c'est fascinant.
Ça donne beaucoup de valeur. Plus on connaît les musiques du monde, plus on comprend. Ça donne beaucoup de valeur aux musiques d'ici parce qu'on voit à la fois le particularisme et aussi le côté universel des musiques de partout. Et, Et puis, bon... c'est un peu une manie, quoi. C'est une espèce de collection. Moi, je sais pas, j'ai peut-être 500 vidéos de musique du monde. Je découvre tous les jours. On peut prendre n'importe quel sujet. Je me disais, à une époque, je me disais, je m'intéresse aux traditions de hautbois. Alors, les hautbois, il y a beaucoup de trucs en Asie, en Orient, Afrique du Nord, en Espagne, en Italie, tout ça. Ah, je me disais quand même, en Espagne, ils jouent tous ces trucs de tradition de hautbois. Et j'ai dit, en Amérique latine, je ne connais pas. Et bien, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on cherche YouTube. Ah, j'ai trouvé des traditions au Venezuela, à Cuba, au Mexique. Évidemment, les Hispaniques, ils ont amené leurs instruments là-bas. Et puis les gens,
les indigènes en ont fait quelque chose.
Pareil pour le violon. Quand on voit ce qu'ils ont fait, les latino-américains avec le violon, c'est... la diversité de jeux qu'il y a, c'est un instrument européen à l'origine. Voilà quoi, ça fait des ponts entre les cultures et en même temps on voit les particularités.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites parce que on part quand même, vous êtes spécialisé plutôt aux musiques du Quercy, donc c'est très très territorial, enfin très très terroir, très ici et en fait. Vous avez fait du collectage donc dans le Quercy et vous dites on a commencé comme ça un peu on y est allé
à Bistodenas.
À Bistodenas, vous comprenez Armand?
Pas du tout.
À Bistodenas, à vue de nez.
À vue de nez.
Voilà. Et moi je croyais que à Bistodenas c'était français hein, au début. Je croyais que tout le monde comprenait. Hein. Je suis arrivée à Paris, j'ai dit à Bistodenas, on m'a regardé, voilà. Et en fait, vous dites qu'on ne comprend pas mieux que quand on s'est ouvert.
Ah oui, ça c'est sûr. Mais je suis convaincu. Hein, je ne dis pas ça, ce n'est pas du tout démago ce que je dis. Hein, je suis convaincu de ça. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la formation dont j'avais la responsabilité, au Conservatoire à Toulouse, il y avait un cours de culture musicale et on étudiait les musiques du monde. Parce que, comment dire, que les gens, surtout, ils ne croient pas que leur musique. De l'Artense en Auvergne ou des Landes ou du Béarn c'est coupé d'une histoire universelle de la musique. Et même nous dans notre société européenne on a aussi à tenir compte, c'est hyper complexe parce qu'on a ce rapport du populaire au savant qui est très complexe.
Oui, oui.
Aussi, et donc il faut qu'on connaisse les musiciens populaires, il faut qu'on connaisse les musiques savantes aussi.
Exactement, et inversement.
Inversement, c'est... Bon, voilà.
Voilà, le pont se fait de plus en plus, mais...
oui, bien sûr. Non, parce que les musiques savantes, la culture académique a eu beaucoup d'influence aussi sur la musique, sur les cultures populaires chez nous. Mm-hmm. Par exemple, c'est sûr. Il y avait ici à Figeac, par exemple, il y avait depuis déjà 1830, il y avait un orphéon. Bon, au début, c'était pas trop les milieux trop populaires qui devaient accéder à ça.
C'est ce qu'on appelait un orphéon.
C'est un groupe vocal d'hommes que d'hommes. D'accord. Donc c'était, ça s'appelait les artisans réunis, ça s'appelle toujours comme ça. Et c'était au début des chanteurs qui étaient artisans, petits commerçants, tout ça. Et donc après, il y a quelques paysans qui ont été autorisés à rentrer là-dedans, mais c'était vraiment progressif. Et ce qui s'est passé, c'est que ces musiciens qui étaient formés à l'académisme musical, puisqu'ils chantaient des œuvres écrites, tout ça, ils avaient aussi à côté une activité de musicien populaire, ils animaient des bals et tout ça.
Oui.
Donc, avec leur bagage académique, ils ont influencé la musique populaire aussi. Donc,
oui,
avec les carnets de bals, la musique écrite et tout ça. Donc, voilà, on n'est pas dans une société, je ne sais pas si on va justement parler du Vanuatu tout à l'heure, si on va vraiment dans les milieux traditionnels du Vanuatu, c'est entièrement l'oralité, c'est entièrement la culture Vanuatu, c'est pas aussi perméable.
Mais c'est une île, hein, déjà.
Oui, c'est ça.
Donc c'est ça, et j'étais fascinée, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez aller voir ça sur YouTube, il y a les tambours d'eau du Vanuatu, fait par les femmes, et vous avez vu ça, Armand ?
Non, pas du tout.
Je crois que je vous l'avais envoyé.
Ah bon ?
Oui. Donc ce sont les femmes qui se mettent dans l'eau et qui jouent de la percussion avec l'eau, en fait. Ouais. Et c'est toute une cérémonie, c'est vraiment incroyable. Et effectivement, on peut faire plein de croisements entre... Alors déjà, par exemple, le flamenco et la bourrée trois temps. Ça marche très bien ensemble, par exemple. Je pense qu'il y a plein d'autres... voilà, de culture qu'on peut regarder en se disant « Mais c'est dingue, ça, c'est à l'autre bout du monde, mais ça me rappelle quelque chose. » Ou alors se dire « Waouh, je ne comprends rien. » Et ça, c'est intéressant aussi.
Ça permet de relativiser beaucoup, par exemple, et de croire que nous, les Occidentaux, souvent c'est le discours, hein, dans les conservatoires, tout ça, c'est nous qui avons fait évoluer la musique et tout ça. Alors, par exemple, c'est vrai que par le système de l'écrit, on est arrivé à la polyphonie dans la musique occidentale, c'est-à-dire jouer à plusieurs voix qui se mélangent et tout ça, et à faire de la musique orchestrale et tout ça. Mais on va justement chez ces gens-là du Pacifique, les Aré-Aré, par exemple, c'est les îles Salomon, et on voit qu'ils ont inventé la polyphonie, peut-être avant nous, à des structures très, très consonantes comme ça. Et, ils ont
et
pas
de
eu,
façon populaire.
Et ils n'ont pas eu besoin de l'écrit. Hein.
Et de
donc
façon populaire.
On croit qu'on a inventé, les Occidentaux, on croit qu'on a inventé la musique à nous seuls, mais pas du tout.
Hein. Non, c'est des échanges. C'est des échanges. Alors, comment on parlait de collectage, est-ce que vous auriez un morceau de collectage que vous pourriez nous jouer avec une histoire?
Oui.
Enfin, je pense que vous en avez plusieurs. Mais...
Bon, alors, je vais jouer une bourrée que j'ai apprise de musicien qui s'appelait Raoul Moulet. Alors, c'est intéressant parce que c'est plus qu'un musicien, c'est une mémoire. Hein, il était natif de Saint-Jean-l'Espinasse, dans le Lot, mais il habitait Vers, à côté de... dans la vallée du Lot, basse vallée du Lot, Castelfranc, accordéoniste, conteur, danseur, et très moderne. Le premier de son village qui a eu la radio, le premier qui a eu la télévision, ancienne de 14-18. Et alors, particularité, c'était il était forgeron. Et alors, donc, une mémoire terrible parce que il. C'est bien à la forge que les gens racontaient, pendant qu'ils se faisaient ferrer les bœufs, cheval, les gens parlaient, et eux, les forgerons, travaillaient, mais ils écoutaient, donc ils emmagasinaient.
Ils savaient tout.
Donc voilà. Alors Raoul, il est poète, il a écrit des poésies, des chansons. Fait, ouais. Et alors donc, il se souvenait d'une bourrée, parce que lui, il jouait l'accordéon, mais il jouait des bourrées plus accordéonistiques. Mais il se souvenait, parce qu'il avait un copain plus âgé, qui était violoneux. Et donc, il se souvenait de cette bourrée-là. Donc, il me l'a chantée. Bon, après, je l'ai reproduite au violon.
La bourrée de Raoul
Moulet.
Moulet.
Voilà. Alors, c'était pas mal parce que l'enregistrement que j'ai, une fois, Raoul, il habitait dans sa maison, là, à la Bastille du Vert, et l'ancienne forge, enfin, pas loin de la forge. Et à la saison d'hiver, il allait avec sa femme, Céline, qui était chanteuse aussi, magnifique chanteuse. Ils allaient passer l'hiver à la maison de retraite de Préissac.
Ah.
Et alors, à l'époque, les maisons de retraite, à cette époque-là, cette maison de retraite-là, c'était des petits pavillons. Et eux occupaient le pavillon à l'entrée. Et alors, ils servaient un peu comme s'ils étaient concierges, je sais pas. Ils connaissaient tout le monde. Alors, les gens arrivaient, et puis ils les accueillaient. Ah, machin. Et alors, donc, j'arrive, il me fait rentrer. Et alors, comme ils passaient l'hiver là, ils avaient très peu d'affaires personnelles. C'est une petite pièce, une chambre. Et il avait un placard. Et alors, il ouvre la porte de son placard. Il la coince sous le bras, comme ça, la porte. Et il se met à taper sur la porte. Et il chante en même temps. Enfin, il avait chanté plusieurs bourrées comme ça, dont celle-là.
La bourrée du placard ?
Voilà.
La bourrée du placard, est-ce que c'est celle-là ?
Ouais,
est-ce que c'est de lui aussi ?
Voilà, celle-là. Bon, je l'appelle bourrée du placard à cause de ça.
Ah, d'accord. Ok, donc la bourrée du placard.
Voilà, parce qu'il l'a accompagné en jouant avec la porte du placard, avec les doigts, en tapant sur les doigts.
Oui, en effet.
Voilà.
Et il chantait.
Il chantait. C'était un genre de... Comment dire Ouais, il s'était créé son petit univers, quoi. Il était très content qu'il avait préparé ça, de me montrer ce truc. il a été super fier. Il était très gentil. Et à partir du moment... Bon, on va pas parler de ça, forcément, mais à partir du moment où ils ont fait un pavillon médicalisé, et là, ils sont allés, Céline et lui, ils sont allés dans le pavillon médicalisé, mais ils n'ont pas vécu très longtemps.
Ah,
bon. Ça, c'est... Donc, je dirais que... Mon expérience des maisons de retraite, c'est que tant qu'on laissons le plus possible d'autonomie aux gens, permettons-leur de sortir de leur milieu clos. On va dire ils sont trop vieux pour marcher, tout ça. Non, 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 non. Si c'est possible, qu'ils fassent deux pas, laissons-leur faire deux pas.
Très bien. Et ben voilà.
C'est un message.
C'est passé à la radio, en
voilà,
tout cas.
Voilà, c'est ça.
Très bien. Alors, pour revenir au collectage, donc vous dites effectivement que vous en avez fait beaucoup. Je voudrais insister sur le fait que c'était effectivement, vous n'étiez pas tout seul, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé tout seul avec votre enregistreur, taper chez des gens au nom de personne. Vous aviez, enfin, vous travailliez du coup pour quelqu'un, vous étiez mandaté ou vous aviez fait une association pour ça ?
Voilà,
ça
association. Au début, c'était Association pour les musiques de tradition populaire en Quercy. Maintenant, c'est la Grange à Soulomès. On se réclame d'une association, voilà quoi. Et c'est vrai que l'association permet aussi de fournir du matériel d'enregistrement. Mm-hmm. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on a fait des associations, de diffuser, de mettre sur des sites, sur accès Internet.
Alors aujourd'hui, par exemple, si on veut écouter des collectages que vous avez faits, c'est possible ?
Oui, alors le ménage, c'est un peu, on est en lien, nous on travaille à l'indexation des documents et c'est mis sur le site du CIRDOC, Centre International de Documentation Occitane, qui est à Béziers, qui concentre les enregistrements, les documents sonores et tout ça, mais pas que sonores, puisqu'à la base, CIRDOC, c'est un centre de documentation surtout de l'écrit. Tout ce qui concerne la culture occitane.
Donc, on vous met ça par écrit.
Le CIRDOC.
Hein, chers auditrices et auditeurs, si vous voulez aller voir les collectages, des documents, en fait.
Il y a des gens qui nous contactent. On cherche une chanson sur tel thème. Moi, ça m'arrive souvent. Ma grand-mère chantait cette chanson. Vous n'auriez pas une version oui, alors on cherche. Des fois, on trouve. Des fois, on ne trouve pas. Et voilà.
Donc il y a tout un travail. Ce qui est bien, c'est que tout ce travail que vous avez fait depuis plusieurs dizaines d'années, 30, 40 ans, maintenant c'est quand même en ligne. C'est ça qu'il y a de bien avec Internet, c'est que c'est en ligne, enfin c'est numérisé, ouais. Et du coup c'est gardé et c'est trouvable. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est plus facile que quand c'était sur des cassettes ou des bandes magnétiques.
Et après, on a fait des éditions, c'est-à-dire qu'on appelle ça un atlas sonore. Alors il y a le, c'est un disque avec un livret des fois. Alors, on a fait d'Argentan Souillac, c'est le long de la Dordogne.
Ah super.
Après on avait fait Paraos del Cauce, c'est sur les récits, sur les chansons, tout ça sur le Causse. Et on a fait aussi Pays Bourian. Voilà.
Voilà. D'accord, et ben voilà, on va mettre tout ça.
On est en train de travailler sur comment on pourrait mettre sur Internet quelque chose qui concernerait plus le Figeacois.
Oui, ah ben oui, par exemple. Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr, et les Pyrénées pour Armand.
Ah, les Pyrénées, quelle partie des Pyrénées, Armand?
Les Hautes-Pyrénées.
Hautes-Pyrénées, ah, Tarbes.
Voilà, Lourdes. La Bigorre.
Oh, la Bigorre.
Alors là, c'est, le Pays Toy.
Ah, le Pays Toy, oui, alors ça, c'est ce pays de polyphonie, de chanteurs superbes.
C'est vrai.
Donc voilà, ce sera pour Armand quand même.
Ouais. Je ne l'ai pas dit à Mathilde, mais j'ai fait du chant, étant un peu plus jeune.
Ah, j'étais pas au courant. La prochaine émission, ce sera sur vous, Armand. On mettra tant vos manettes. Alors, il reste très peu de temps, Xavier. Est-ce que vous auriez un dernier morceau à nous jouer? Tant qu'on vous a là.
Oui.
Preissac, la célèbre et inoubliable polka de Preissac, je crois que vous me l'avez apprise, je crois que j'avais 9 ans.
Ouais,
en tout cas, merci, c'était très agréable de jouer avec vous, de parler avec vous. Je me dis qu'on aurait encore 25 émissions à faire sur tout ce que vous avez fait. On fera peut-être ça un peu plus tard, n'est-ce pas, Armand?
Oui, bien sûr, grand plaisir.
Voilà, on vous réinvitera un peu plus tard. Merci beaucoup, Xavier Vidal.
Merci, Mathilde.
Merci beaucoup, Armand. Et puis, merci aux auditrices et aux auditeurs d'écouter. N'hésitez pas à nous faire des retours par Internet, par téléphone, par signaux de fumée, ce que vous voulez.
Par pigeon voyageur aussi, c'est
aussi
possible.
Aussi, on reçoit les pigeons voyageurs, oui.
C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.